dans cette série, dans le livre d'Exode, le Dieu qui veut demeurer avec nous. Et on avance petit à petit. Chaque dimanche, on progresse dans le livre de l'Exode. Et là, on va arriver au chapitre 32. Mais avant d'aller dans le texte, j'aimerais vous poser une première question. Quel est votre rêve le plus cher? Quelle serait votre aspiration la plus forte? Et c'est peut-être la première fois que vous passez la porte de l'église ce matin, peut-être la deuxième, la troisième, la millième fois, machinalement. Et finalement, ça n'a pas trop d'incidence. Ce qui importe, c'est quel serait votre souhait, quel serait votre vœu là ce matin. Parlant de vœux, aujourd'hui c'est un jour d'anniversaire. Et quand une personne souffle ses bougies d'anniversaire, on peut lui dire « Allez, vas-y, fais un vœu !» Alors si on devait penser à notre vœu le plus cher, qu'est-ce qui nous rendrait heureux? Ce serait quoi? Et là, on parle d'aspirations très fortes. Se marier, avoir des enfants, avoir un meilleur salaire, vivre la guérison, être connu, être une star, un grand sportif, avoir une vie plutôt tranquille, sans accrocs, ou même peut-être vivre dans un autre pays, à l'étranger, avoir une nouvelle maison, et puis si j'ose pour me mettre un peu dans le jus, être un super prédicateur. Si je vous disais maintenant que, en fait, l'exaucement de nos vœux les plus chers pourrait être la pire chose qui pourrait nous arriver. J'ai oublié de prendre ma petite zapette, alors je la sors pour mes diapos. Si je vous disais que l'exaucement de nos vœux les plus chers était la pire chose qui pourrait nous arriver. James, il a 45 ans. Il est marié, il a deux enfants. Et ça fait des années que James, il rêve d'une Audi R8. Alors, j'ai rien contre l'Audi R8, mais vu que je ne m'y connais pas trop en voiture, en cherchant une belle voiture sur Internet, je suis tombé sur une Audi R8. Vous me confirmerez si c'est une belle voiture. Mais en tout cas, c'est le rêve de James. Mais son rêve, il ne s'est pas réalisé comme il le souhaitait. La femme de James, elle ne le reconnaît plus. Il n'a plus de temps à lui consacrer, parce qu'il doit prendre soin de sa voiture. Ses enfants aussi ne reconnaissent plus leur père. Ils ne peuvent plus jouer dans le jardin parce qu'un ballon, une trottinette, un vélo, ça pourrait rayer la belle voiture de James. Fini les sorties en famille, il faut nettoyer la voiture le week-end, parce que la semaine, quand il roule dans sa belle voiture, il faut qu'elle soit belle. Et si James, il n'a plus vraiment de temps pour sa famille, James, il n'a plus non plus vraiment de temps pour ses amis. Même le budget familial, en fait, est changé, parce que pour acheter ce bolide de rêve, il a fallu faire un prêt. Un rêve qui, finalement, pour James, a rendu toute une famille malheureuse. Alors, parfois, la réalisation de notre vœu le plus cher est la pire chose qui peut nous arriver. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, mentionne qu'une des pires choses que Dieu peut faire à quelqu'un est de l'abandonner aux passions de son cœur. Parce que c'est une des tendances de nos cœurs, peut-être la plus grande, de prendre des bonnes choses, les bonnes choses que Dieu nous donne, et de les transformer en idoles. C'est l'inclinaison de notre cœur. Et toujours l'apôtre Paul résume notre attrait naturel à l'idolâtrie par cette phrase bien connue: ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur. Et c'est de ça que nous parle le texte d'Exode 32 ce matin. L'idolâtrie. Et j'aimerais qu'on regarde trois choses que fait le texte d'Exode 32. Exode 32 nous donne un modèle de base de l'idolâtrie. Exode 32 brise notre insouciance par rapport au péché. Et Exode 32, j'avais dit, il y a de l'espérance quand même, tourne notre regard vers le seul médiateur suffisant entre nous et Dieu, entre la créature et le Créateur. Alors je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, que ce soit sur votre smartphone ou en papier. Vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 32 de l'Exode. deuxième livre de la Bible, 32e chapitre. Et on va lire les 6 premiers versets, puis après on parcourra les autres versets durant la prédication. Mais on va lire là déjà les 6 premiers versets, Exode 32, et je lis dans la version Semeur. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte !» Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau. Puis il proclama « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Jusqu'ici, la lecture. Alors, à travers ce passage, on découvre un modèle de base de l'idolâtrie. Un modèle de base d'idolâtrie pour nos idolâtries. Exode 32 commence au verset 1, quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. » Ça fait 40 jours et 40 nuits depuis que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les instructions concernant le véritable culte qui doit être rendu à Dieu. Et il aura fallu 40 jours. Seulement 40 jours pour que le peuple manque de patience et succombe aux inclinaisons de leur cœur. Fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Et si on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé avant, l'Éternel a marché à la tête de son peuple dans une colonne de nuée et de feu. On l'a même vu en lisant le psaume 99 ce matin. L'Éternel a pourvu aux besoins de son peuple dans le désert par la manne. L'Éternel a parlé à son peuple. Le problème d'Israël n'est pas l'adoration de l'Éternel, mais il veut l'adorer à sa façon. Il veut l'adorer comme lui, il a envie. Alors il se fabrique une idole à sa portée, une idole qu'il pourra toucher, une idole qu'il pourra voir, une idole en métal brillant. Alors peut-être que vous avez déjà vu passer ces slogans régulièrement. 6 étapes pour créer son entreprise. Ou encore 5 clés pour trouver l'amour. On continue parce qu'on a encore 4 astuces pour perdre du poids. Et maintenant, Exode 32 nous propose 3 étapes pour fabriquer une idole. Fabriquer une idole en 3 étapes. Première étape, la motivation. Fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Donc des dieux qui marchent devant nous. Autrement dit, des dieux qu'on peut voir. Et l'argument du peuple d'Israël, c'est qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Il ne voit ni Moïse, ni le Dieu invisible. Alors il réclame à Aaron une image de son Dieu. S'il y a un petit débat sur la traduction, est-ce que c'est « fabrique-nous des dieux » ou est-ce que c'est plutôt « fabrique-nous un dieu », un singulier, un pluriel. Personnellement, je n'ai pas les compétences pour trancher. Mais de toute façon, il me semble que l'issue centrale du texte ici, l'enjeu, c'est que le peuple d'Israël veut se faire une image associée à l'éternel Yahweh. Ça, c'est clairement une transgression du deuxième commandement. De la deuxième parole de Dieu donnée à son peuple. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre. Donc pas une vache, pas un veau. ou dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Exode 20, versets 4 à 5. Et malgré le deuxième commandement, le peuple d'Israël se laisse influencer par les nations qui sont autour de lui. Et comme les autres peuples, il veut un Dieu visible, un Dieu à sa portée, un Dieu qui pourra contrôler, un Dieu qui ne parlera pas. Comme ça, il n'aura pas d'exigence morale à attendre de lui. Voilà la motivation du peuple d'Israël. Et la première question qu'on peut se poser, c'est notre motivation à nous. Est-ce qu'elle est vraiment différente? Est-ce que nous aussi, des fois, on ne cherche pas à remodeler Dieu à notre image? Nous avons été faits en image de Dieu, pas Dieu en notre image. Mais est-ce qu'on ne cherche pas à remodeler Dieu à notre image? Alors, c'est vrai, on ne réclame pas une image de Dieu en métal fondu ce matin. Mais parfois, on aime imaginer que Dieu, il est comme si, mon Dieu à moi, il est comme si ou comme ça. Ça peut nous arriver de dire, mon Dieu, moi je le vois vraiment plutôt comme ça. Et Jésus-Christ, lui, il est amour, non, pas le jugement. Moi, mon Jésus à moi, il est comme ça. Comme s'il nous revenait à nous de remodeler l'image de Dieu. Première étape, la motivation. Pour se fabriquer une idole en trois étapes. Deuxième étape, la conception. Suite à la requête du peuple d'Israël, au verset 2, Aaron, qui est en position de leadership, qui a une responsabilité vis-à-vis du peuple, récupère l'or, qui vient des boucles d'oreilles des femmes, des fils et des filles du peuple. Et il s'en sert comme la matière première pour sa création, sa conception, et il coule un veau en métal fondu. Alors, pourquoi un veau? Est-ce que c'est un choix par hasard? Vraisemblablement non. C'est que dans les cultures autour, la vache, le taureau, à l'époque, était un symbole de force et de fertilité. Je trouve intéressant d'ailleurs que Tim Chester, dans son commentaire, souligne qu'aujourd'hui encore, dans une société occidentale, on symbolise la montée du cours de la bourse par un taureau. Et donc le peuple demande à Aaron de lui concevoir une idole. Et en plus de concevoir une idole de métal représentant un veau, pour faire comme les autres nations qui l'environnent, le texte précise une chose intéressante. Aaron a utilisé un burin pour façonner l'or. Autrement dit, l'auteur nous dit « Cette idole a été façonnée par les mains de l'homme. » Et là, on voit que les désirs de l'homme se portent pour les choses créées plutôt que vers le Dieu qui les a créées. Nous adorons la créature plutôt que le créateur. Alors, vous allez me dire « Oui, mais aujourd'hui, tous les peuples ne se fabriquent pas des idoles en bois ou en métal. » Mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans nos cœurs, ça c'est une idolâtrie universelle. Finalement, est-ce que nos cœurs ne vont pas chercher de la matière première, scintillante, une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériaux, ou même une famille? Et là, pour être clair, j'aimerais quand même dire que ces choses sont bonnes. C'est des choses très bonnes données par Dieu. Mais que nos cœurs vont chercher pour façonner et les élever au rang d'idoles, pour qu'elles marchent devant nous, pour que nous soyons persuadés qu'elles nous apporteront la sécurité, la protection, l'épanouissement. Et là, il suffit pour nous, tout à l'heure on a fermé les yeux, de fermer les yeux, de tendre l'oreille, et on va les entendre. C'est Dieu scintillant dans nos vies qui réclame leurs droits sur notre cœur. Pour se fabriquer une idole, première étape, la motivation. Deuxième étape, la conception. Troisième étape, l'aliénation. Alors, ce que j'entends par aliénation, c'est l'idée de détournement. Lorsqu'on désire, lorsqu'on conçoit des idoles dans nos cœurs, ça conduit toujours à l'aliénation de notre relation avec Dieu. ça conduit toujours au détournement de notre relation avec Dieu. Si on retourne au texte, si vous avez le texte sous les yeux, là, on retourne au verset 4. « Ça y est, l'idole peut être contemplée par le peuple. Alors le peuple s'écria, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Et que fait Aaron ? Il y a une position de responsabilité. Est-ce qu'il entraîne le peuple ? Ou est-ce que plutôt il essaye de rattraper le coup de ce qui est en train de se passer ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il propose au verset 5 une fête en l'honneur de l'Éternel. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se termine cette fête. À la fin du verset 6, on peut lire « Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ici, un bon nombre d'exégètes de biblistes soulignent que derrière le terme « se divertir », peut y avoir une connotation sexuelle. En gros, c'est une orgie sexuelle qui est organisée pendant la fête rendue à l'Éternel. En tout cas, c'est comme ça que Paul, dans son épître aux Corinthiens, comprend ce texte d'Exode 32. Et c'est pas trop étonnant parce que les fêtes païennes de l'époque étaient souvent accompagnées d'orgies sexuelles. Voilà ici l'aliénation du culte rendu à Dieu, le détournement. On voit des idoles païennes, une statue en métal, des orgies sexuelles qui viennent s'inviter dans le culte rendu à l'Éternel. Une aliénation du culte rendu à Dieu. Autre question pour nous ce matin. Comment notre relation à Dieu est aliénée ? Quand on a poussé la porte de l'église ce matin, qu'on soit chrétien ou pas, est-ce qu'on est venu se modeler une image de Dieu ? Ou est-ce qu'on est venu écouter l'Éternel Dieu parler ? Pour se fabriquer une idole en trois étapes, motivation, conception, aliénation, détournement. Et l'idolâtrie d'Israël ici nous donne un modèle de base pour toutes nos idolâtries. On peut lire ce verset dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. » Qu'on puisse demander à Dieu de pénétrer nos cœurs pour mettre en lumière, on a parlé de la lumière ce matin, pour mettre en lumière où est-ce que nous fabriquons des idoles qui vont nous détourner de l'Éternel. Exode 32 nous propose un modèle de base de l'idolâtrie et Exode 32 nous propose aussi de briser notre insouciance par rapport au péché. On va voir ça dans ce texte terrible des versets 7 à 29. Notre insouciance par rapport au péché. Alors après l'épisode du verset, des six premiers versets, on arrive au verset 7 et il y a un dialogue qui va s'installer entre Dieu et Moïse. Face à l'idolâtrie du peuple et face à la transgression du deuxième commandement, au verset 8, Dieu dit « Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. » Et là, si on se rappelle du deuxième commandement, « Tu ne te prosterneras pas. Ils se sont prosternés. Tu ne leur rendras pas de culte. Ils lui ont offert des sacrifices. » Et face à l'idolâtrie, Dieu se met en colère, s'enflamme de colère. Et Moïse supplie. Moïse implore l'Éternel. Et puis finalement, il descend. Dieu lui dit, va, redescend. Il descend à la rencontre d'Aaron et du peuple d'Israël. Et là, on voit la colère de Moïse. À partir du verset 15, lui aussi va se mettre en colère contre le peuple et Aaron. Et en s'adressant à Aaron, il va qualifier l'idolâtrie du peuple d'un si grand péché. Le petit compromis d'idolâtrie, une statue en métal, les orgies sexuelles, le petit compromis d'idolâtrie du peuple, là sont qualifiés de si grands péchés. Alors pourquoi un si grand péché ? Pourquoi ce qualificatif ? Parce qu'ici, on assiste à un adultère. On assiste à une tromperie. Dieu avait fait alliance avec son peuple au mont Sinaï. Dieu était devenu comme leur époux. On peut même dire que Israël avait prononcé des vœux. Je vous lis le troisième verset du chapitre 24. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix, tout le peuple s'écrie d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Le peuple a prononcé des vœux. Pour comprendre un peu ce qui se passe là, imaginez-vous. Imaginez une femme asservie, oppressée par un maître tyrannique. Il la rend esclave. Il la fait dormir dans une cage et la nuit, elle gémit, elle pleure, elle crie. Un jour, elle entend toquer à la porte, elle va ouvrir. Un homme arrive et dit « J'ai entendu tes cris. Je vais te libérer. » Il libère cette femme de l'emprise de son tyran. Il la demande en mariage et il l'épouse. Une cérémonie magnifique. Elle est dans sa plus belle robe, une robe blanche immaculée. Un mariage merveilleux. Et alors ils partent en lune de miel. Destination choisie, les Caraïbes. Une villa magnifique. La lune de miel commence. Mais l'époux est appelé en urgence et il s'absente combien de jours ? 40 jours. Il revient. Il entre dans la villa. Et dans son lit, il retrouve sa femme avec un autre homme. On ne doit pas être insouciant quant à la gravité de l'idolâtrie ici, du peuple. Cet adultère tellement grave aux yeux de Dieu qu'on voit la relation brisée entre Dieu et son peuple. Le compromis conduit à la relation brisée. Et on peut s'attarder un petit peu sur cette relation brisée ici. Verset 7, alors que Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit « Va, redescends !» Donc Moïse est sur la montagne, « Va, redescends !» à la rencontre du peuple. Et là, si on est attentif aux mots qui sont employés, « Car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, se conduit très mal. » C'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit « Car ton peuple !» Le peuple de Moïse. Et je ne sais pas si on réalise vraiment ce qui se passe là, mais pendant 15 chapitres, l'Éternel, donc dans le livre de l'Exode, l'Éternel s'est adressé à Pharaon et lui a dit « Laisse partir mon peuple !» Et maintenant, il s'adresse à Moïse et lui dit « Car ton peuple, ce n'est plus mon peuple. » Si on avait un petit peu plus de temps, on aurait pu comparer la chute d'Adam et Ève en Genèse 3, dans le jardin d'Éden, et la chute d'Israël en Exode 32. Et Moïse comprend l'enjeu, l'importance de ce qui est en train de se passer. Regardez son attitude lorsqu'il voit l'idolâtrie du peuple. Je vais lire à partir du verset 15. Moïse s'en retourna, redescendit de la montagne, Dieu lui avait demandé, tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. Elles étaient gravées des deux côtés, sur leurs deux faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tablettes. Quand Josué entendit les clameurs poussées par le peuple, il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp ?»« Non, répondit Moïse, ce ne sont ni des cris de victoire, ni des lamentations de défaite. C'est un bruit de chanson que j'entends. » Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les chœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Moïse, face à l'idolâtrie du peuple, face à ce si grand péché, brise les tablettes. Et au verset 15, on nous précise bien de quelle tablette on parle. Les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tablettes. Mais l'alliance de Dieu entre Dieu et son peuple est rompue, brisée. Les lois venaient d'à peine être données, les tablettes venaient d'être rédigées, et voilà, l'alliance rompue. L'alliance entre Dieu et son peuple est brisée. Les petits compromis de l'aliénation d'un culte, un culte détourné à Dieu, d'idolâtrie, amènent à la relation brisée. Alors voilà pourquoi Moïse va dire, pour qualifier l'idolâtrie, un si grand péché. Alors vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Moïse va faire? Pour Dieu, c'est assez clair. On voit au verset 9, Dieu voit très bien ce que le peuple vient de commettre et il se prépare à l'exterminer. Et là, Moïse supplie Dieu. Et alors là, je ne sais pas si c'est peut-être le premier texte de la Bible que vous lisez pour certains, ou si vous en avez lu déjà beaucoup, si c'est la première fois que vous entendez une prédication sur Exode 32, ou si c'est la première fois que vous lisez Exode 32, mais peut-être que vous pouvez vous dire, bon d'accord, c'est un très grand péché, bon d'accord, c'est un adultère. Mais heureusement que le bon et gentil Moïse plaide en faveur du peuple devant le Dieu méchant et colérique qui veut châtier son peuple. Alors, rappelons-nous l'objectif là de ce texte, briser notre insouciance par rapport au péché. Qu'est-ce qui motive Moïse à supplier Dieu? Pourquoi il implore Dieu? Est-ce que c'est l'innocence d'Israël? Est-ce que c'est le fait qu'il ne mérite pas la mort? Est-ce que c'est le fait que c'est juste des petits compromis? Sois pas trop dur, Dieu. Et là, je vous invite à regarder entre les versets 11 et 13 pour trouver la réponse à cette question. Pourquoi Moïse supplie-t-il? Je vais lire le verset 12. « Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. » Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est la gloire de Dieu qui motive Moïse. C'est pour que la gloire de Dieu ne soit pas entachée. Pour que les Égyptiens puissent témoigner de la gloire de l'Éternel, de la fidélité de Dieu à ses promesses qu'il a fait à Abraham, Isaac. Moïse intercède auprès de Dieu. Souviens-toi de tes promesses, de ta fidélité. D'une certaine manière, ce que fait Moïse, contrairement au peuple, c'est qu'il confesse qui est le seul vrai Dieu, le Dieu qui s'est engagé. Il confesse qui est le seul vrai Dieu, celui dont la gloire doit rayonner. Alors Moïse ne sous-estime pas les compromis, le si grand péché. D'ailleurs, après avoir brisé les tablettes de la loi, Moïse va être la bouche qui annonce le jugement dans une scène terrible et sanglante. Moïse se retrouve face à une foule hors de contrôle, verset 25. Les commentateurs soulignent que derrière le terme de déchaîné ou hors de contrôle, il faut imaginer une foule dont le péché, l'immoralité sexuelle est inarrêtable. Un désordre complet. Le péché ne cesse de grandir, de se développer. Il devient incontrôlable. Alors Moïse se met à crier devant cette foule. Que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent à moi. Moïse invite le peuple entier à se positionner. Ils remettent l'ordre. Plus de compromis. Ceux qui rendent un culte, qui veulent rendre un culte à l'Éternel, les idolâtres. Et puis la scène terrible arrive. Il demande à ceux qui se sont ralliés à lui de tuer les autres. Il y aura 3000 morts. Ça, c'est une scène dramatique et terrible. Alors qu'est-ce que cette scène d'une brutalité extrême nous enseigne? Que nous, on a le devoir de punir l'idolâtrie? Que face au péché qui grandit et qui devient inarrêtable, la seule solution que nous avons à proposer, c'est la mort? Je crois pas. D'aucune façon que ce soit. Ce texte nous invite à la brutalité. Mais ce texte nous enseigne qu'on n'a pas à être insouciant par rapport au péché et à l'idolâtrie. Le péché pourrait sembler inoffensif, c'est vrai. Mais ce que ce texte dit, c'est qu'il est brutal et destructeur. La question que ce texte nous pose par rapport à notre vie, c'est est-ce qu'on a vraiment conscience du danger de l'idolâtrie dans nos propres vies, de nos idoles? Est-ce qu'on reste insouciant face à ça? Est-ce qu'on a conscience de nos idolâtries déjà? Est-ce qu'on a conscience de nos compromis? Des tout petits compromis, mais qui, pour reprendre les mots de Moïse, sont des si grands péchés. Peut-être pour illustrer un peu, là, pour sortir un petit peu du texte et illustrer un peu, je ne sais pas si vous connaissez ce film, ce livre que j'aime beaucoup. Certains connaissent le film, d'autres connaissent le livre. Ah, Le Seigneur des Anneaux. De J.R.R. Tolkien. Un anneau, c'est inoffensif. En tout cas, ça semble inoffensif. L'anneau de pouvoir du Seigneur des Anneaux, il est inoffensif. Regardez comme elle est belle, la photo. Mais est-ce qu'il est vraiment tant que ça inoffensif? Quand on voit ce que l'anneau a fait à cette créature, l'a corrompu. Et Gollum est un exemple parfait de ce que l'anneau a fait, mais énormément de personnages de toute l'histoire ont été détruits par l'anneau. Il y a un auteur qui s'appelle Tom Chipley, il a écrit quelque chose pour parler de l'anneau de pouvoir. Je trouvais ça intéressant. L'anneau de pouvoir de Tolkien transforme les bonnes choses en absolu qui submerge toute loyauté ou valeur morale. Celui qui porte l'anneau lui devient de plus en plus profondément asservi et finit par devenir son esclave, car une idole est quelque chose d'essentiel à la vie. Nous devons absolument la posséder. Et pour cela, elle nous pousse à bafouer les règles que nous avions toujours respectées dans le passé. Nous sommes prêts à nuire aux autres, voire à nous-mêmes, pour l'obtenir. Il finit en disant « Les idoles sont des dépendances spirituelles qui mènent au mal absolu dans les romans de Tolkien comme dans la vraie vie. » Alors on pourrait de nouveau lire ce verset « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. » Quels sont les anneaux de pouvoir qui nous détournent du seul vrai Dieu? Que Dieu nous permette d'oser les regarder avec pleine conscience, que ce soit l'argent, une relation, un rêve, une passion. Et encore une fois, je leur dis, c'est pas forcément la chose qui est un problème, c'est la place qu'on lui donne. Exode 32 nous a proposé un modèle de base de l'idolâtrie. Exode 32 a brisé aussi notre insouciance par rapport au péché. Mais malgré tout ça, Exode 32 nous pousse à regarder vers l'espérance, vers le seul médiateur et réconciliateur suffisant entre nous et Dieu, entre la créature et le créateur. Et ça, on va voir ça dans les 5 prochains versets. Et j'aimerais que dans ces 5 prochains versets, on regarde surtout la question de Moïse et la réponse de Dieu, pour voir comment cette question et cette réponse nous poussent à regarder vers celui qu'on a chanté ce matin, Jésus-Christ. Verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous vous êtes rendu coupable d'un grand péché. » Il recommence. Un si grand péché, là c'est d'un grand péché. « Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je un moyen d'expiation pour votre péché. » Autrement dit, peut-être obtiendrai-je le paiement pour votre péché, le pardon de vos péchés. Et Moïse, il va encore plus loin. Au verset 31. Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit « Hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » Moïse comme un médiateur auprès de l'Éternel. Moïse a intercédé, et maintenant Moïse, comme un médiateur auprès de l'Éternel, il est prêt à ce que son nom soit retranché du peuple de Dieu pour que le peuple soit pardonné. Waouh ! Incroyable Moïse ici.
Encore plus incroyable, la réponse de Dieu.
Moïse, ta vie ne suffit pas.
Chaque personne qui a péché contre Dieu doit payer. Chacun est responsable de la vie qu'il a.
Et Moïse, ta vie ne suffit pas.
Voilà la réponse de Dieu. Est-ce que c'est une réponse qui ne serait pas juste ? Je crois que si, c'est une réponse juste. Chacun doit payer pour ce qu'il a fait. Chacun doit répondre de ses actes. Dieu aurait très bien pu dire, très bien, vous préférez pécher et adorer des morceaux de métal plutôt que le Créateur. Vous préférez continuer à adorer les créatures et les idoles de vos cœurs. Chacun de vous rendra compte de ce qu'il a péché contre moi. Et il s'arrêtait là. Dieu aurait pu s'arrêter là. Dieu aurait pu nous laisser, chacun d'entre nous, dans notre condition de fabricant d'idoles. Il aurait pu nous laisser, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, esclaves des passions de nos cœurs. Et pourtant, le grand Dieu de l'univers, en disant à Moïse, ta vie ne suffit pas, ne s'est pas arrêté là. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme l'a confessé Moïse un peu plus haut, Dieu est fidèle à ses promesses, parce qu'il s'est engagé. Par pure grâce, l'éternel Dieu a décidé de ne pas donner aux pécheurs ce qu'ils méritent. Dieu a continué de répondre. Moïse, ta vie ne suffit pas. Mais après, pendant des années, à travers tout l'Ancien Testament, à travers les prophètes, Dieu a continué de répondre. Oui, quelqu'un va payer, va expier le péché de votre idolâtrie. Oui, quelqu'un va venir restaurer la relation brisée entre le Créateur et la créature à cause de votre idolâtrie. Oui, moi, Dieu, je vais venir habiter au milieu de vous. Et oui, il y aura un médiateur entre moi et vous. Et c'est mon Fils, Jésus-Christ. John Stott a dit une phrase intéressante pour parler du rapport entre la croix et l'idolâtrie, le péché. Il dit « Parce que nous avons voulu être sur le trône à la place de Dieu, idolâtrie, en Jésus-Christ, Dieu est venu mourir sur une croix à notre place. » On peut lire aussi dans la première épître à Timothée, dans le Nouveau Testament. « En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. La vie de Jésus-Christ est la seule qui pouvait être suffisante. Non, Moïse, ta vie ne suffit pas, parce que la vie de Jésus-Christ est la seule qui pouvait être suffisante. Par son sacrifice, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé le prix pour le péché de l'humanité, en apportant le pardon des péchés, en imputant sa justice et en réconciliant l'homme avec Dieu. » On a lu 1 Jean, premier chapitre tout à l'heure, on pourrait citer dans le deuxième chapitre d'1 Jean, « Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de Jean du monde entier. » Jésus est le seul médiateur suffisant. Et ce texte d'Exode 32, en nous montrant l'insuffisance de la vie de Moïse pour obtenir le pardon des péchés du peuple d'Israël, il nous pousse à regarder un seul sauveur dont le sacrifice était suffisant pour expier le péché du monde. Alors en entrant dans l'église ce matin, vous ne vous doutiez peut-être pas qu'on allait mentionner quelle serait la pire chose qui pourrait nous arriver. J'aimerais quand même qu'on reparte avec la meilleure chose qui peut nous arriver. J'aimerais qu'on reparte en sachant que la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est que le seul qui peut réconcilier l'humain et Dieu, la créature avec le Créateur, Jésus-Christ, que lui seul puisse venir remplacer nos idoles, remplacer les idoles de notre cœur, qu'il vienne mettre en lumière les endroits où on a fabriqué des idoles dans nos vies, dans lesquelles on pense trouver la sécurité, la protection, l'épanouissement. que Jésus-Christ vienne les remplacer par la seule et vraie adoration, celle de l'éternel Dieu. Et je vais finir en lisant ce verset comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur.